La carte Visa Orange Monnaie, retrait et paiement dans toute la zone UMOA, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
François Mazet.
Appel sur l'actualité, deuxième partie, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour notre débat du jour. Le 30 juillet 1999, il y a 20 ans donc, Mohamed VI montait sur le trône du Maroc, une semaine tout juste après le décès de son père Hassan II. Il n'avait pas encore 36 ans et portait un discours et une promesse de modernisation du royaume. Alors cette promesse a-t-elle été tenue ? Que retenez-vous de ces deux décennies entre succès industriel, inégalités persistantes et retour du Maroc sur l'échiquier africain ? Vous nous le dites et vous êtes nombreux déjà à commenter hein, sur notre page Facebook notamment. Et pour parler de ce roi aussi secret que puissant, puisque c'est bien lui qui dirige le pays, nous sommes en ligne avec Abbas à Casablanca. Bonjour.
Et bonjour François.
Abbas, diriez-vous que votre pays a grandement changé sous le règne de Mohamed VI ?
Oui. Un grand changement, François. Surtout l'aspect, moi je vais m'étaler plus sur l'aspect économique et les côtés infrastructurels. Vous savez, le Maroc aujourd'hui, en termes économiques et surtout l'attractivité, est un exemple céleste, je dirais, pour tous les pays africains. Vous avez aujourd'hui les côtés touristique, le Maroc bat les records, si ma mémoire est bonne, depuis 2017, du pays africain le plus attractif. Le port Tangemet est le plus grand port aujourd'hui du Maroc. L'attraction des investisseurs directs étrangers, le côté aussi diaspora, le Maroc est de plus en plus investi plus sur cette diaspora depuis le règne du roi Mohamed VI.
C'est vrai que les chiffres sont assez importants, Abbas. Hein. 90% du réseau routier marocain a été construit sous le règne de Mohamed VI. Il y a désormais 19 aéroports internationaux, dont celui de Casablanca, qui reçoit 10 millions de passagers. Il est totalement alimenté par un parc éolien. Il y a le TGV qui relie Tanger à Casablanca, etc. Des réussites industrielles, c'est sûr, mais toutes ces avancées n'ont-elles pas profité à une minorité de Marocains?
Oui, le gouvernement est bien conscient. Même le roi l'a rappelé hier, je ne sais pas si vous avez eu son discours, mais il a rappelé qu'il y a des améliorations qu'il faut faire au niveau du côté social.
Il a parlé donc, de disparité criante.
Voilà, justement. Donc, en fait, l'inégalité économique aujourd'hui est un défi mondial. Ce n'est pas seulement le Maroc ou l'Afrique seule en souffre. Donc, des tas de pays aujourd'hui, les économistes essaient de déployer des moyens pour y remédier. Donc, il ne s'agit pas seulement du cas du Maroc. Bon, je ne sais pas si je défends les bilans du roi, mais voilà, c'est un état de lieu. Et si j'ai décrit ce que je perçois, quoi. Mais oui, il y a des améliorations à faire
Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'il fasse pour gommer ces inégalités qui sont toujours aussi fortes aujourd'hui qu'il y a 30 ans?
Oui, écoutez, ça se passe par le Maroc. Son problème est d'abord plus, je sais pas, il y a un laisser-aller sur l'informel, donc l'économie souterraine. Donc il va falloir soit améliorer ces domaines, soit les transformer en un autre secteur et permettre de créer de l'emploi afin que le dernier ménager marocain puisse en profiter. Officiellement, les statistiques, on y ment, mais à peu près 50% de la population est touchée par le chômage. Donc, et la plupart, c'est la jeunesse. Donc, il va falloir créer de l'emploi, investir sur cette jeunesse, surtout en termes d'éducation, même s'il y a déjà pas mal de choses à constater.
Des choses qui ont été faites. Merci Abbas d'avoir été avec nous en ligne de Casablanca. Nous allons à Rabat, oui, la capitale du Maroc, hein, où vit Catherine. Catherine, vous êtes d'origine camerounaise et vous êtes donc installée à Rabat depuis de nombreuses années. Bonjour Catherine.
Oui, bonjour. Bonjour à vous.
Et vous aussi, comme beaucoup d'auditeurs hein, qui commentent sur notre page Facebook, vous êtes satisfaite de l'action du roi Mohamed VI?
Bien évidemment, je suis satisfaite de ces objectifs. Pourquoi ? Parce que depuis son règne, beaucoup de choses ont changé. Et comme disait Abbas tout à l'heure, donc je ne peux pas encore répéter ce qu'il vient de dire, sur le plan infrastructure et tout, donc beaucoup de choses ont changé, en fait.
Et est-ce que tout cela a eu un impact sur votre vie quotidienne à vous ?
Vie quotidienne à moi personnellement ou bien dans l'ensemble en fait, vie quotidienne par rapport à moi, donc il y a eu un grand changement. Et mais par contre, en ce qui concerne surtout sur le plan travail, déjà concernant en fait des migrants, pourquoi ? Parce que je peux que me baser sur la migration, étant donné que je suis militante de droits de l'homme. Sur le plan des...
Vous estimez que le Maroc est un pays ouvert aujourd'hui pour les personnes qui arrivent d'Afrique subsaharienne ?
Bien évidemment, le Maroc est assez ouvert et en plus, je vais dire aussi une chose surtout, pour tous ceux qui viennent de l'Afrique subsaharienne, qui souhaitent résider au Maroc, le plus important c'est toujours en fait suivre en fait les règnes en fait du pays, parce que vous êtes tout à fait d'accord avec moi que il faut respecter en fait les normes et la loi de chaque pays, étant donné que chaque pays est
Alors, bien sûr, Catherine, mais la loi n'est-elle pas appliquée de manière un peu trop rude au Maroc quand vous voyez par exemple les leaders de la contestation dans le RIF qui menaient un mouvement pacifique pour plus de justice sociale et territoriale et qui écopent de 20 ans de prison, ça ne vous interroge pas ?
Ça m'interroge un tout petit peu. Bon, donc là, je ne peux pas déjà m'initier dans... le problème politique marocain. Pourquoi ? Parce que je sais pertinemment que il y a une inégalité sociale. Mais cette inégalité sociale, ça incombe à tout un chacun. Pourquoi ? Parce que normalement, donc il faut chercher et trouver. C'est-à-dire quand vous avez besoin de quelque chose. Et, bon, il y a un adage chez nous en Afrique qui dit ceci. Quand vous voulez une mangue, soit vous prenez une pierre, vous lancez sur la mangue pour que ça puisse tomber, soit vous grimpez. Mais il ne faut pas chercher, il ne faut pas rester les bras croisés et à ce que la mangue vous tombe du ciel. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Donc il faut que les Marocains prennent en main leur destinée et développent leur propre pays. Merci à vous, Catherine. Nous sommes maintenant avec Mohamed qui habite à Paris. Bonjour Mohamed.
Bonjour François Mazé.
Vous êtes de nationalité marocaine, je crois, et pour vous, le pays, le Maroc, n'a pas véritablement changé durant le mandat de Mohamed VI.
Alors, il n'a pas changé structurellement, c'est évident. Maintenant, en termes d'infrastructures, en effet, et notamment dans les régions centrales du pays et dans la dorsale atlantique, il y a des progrès énormes qui ont été accomplis. Néanmoins, aussi bien en termes politiques qu'en domaine économique et social, et en termes de couverture sociale, le pays a de très nombreux progrès à faire. D'ailleurs, j'en veux pour preuve le discours quelque peu crépusculaire qui a été donné hier par le roi en direct à la télévision nationale. C'est pas un discours d'autoglorification, c'est un discours qui prend en compte une sorte d'insatisfaction générale. J'entends bien les satisfactions qui sont émises par ailleurs par d'autres auditeurs. Néanmoins, il semble, et il est désormais qu'une grande partie du peuple marocain attendait plus de ces 20 dernières années de règne.
Ouais, Mohamed VI, hier soir, s'est félicité, je cite, d'un bon qualitatif en matière d'infrastructure. Il a vanté la consolidation des droits et libertés, mais ces progrès n'ont, selon lui, pas eu les répercussions suffisantes, notamment sur les questions sociales. Alors, vous estimez notamment que le palais et les oligarques qui sont proches du souverain devraient se désengager de l'économie pour laisser le secteur privé respirer.
Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est une question qui est une conséquence de la politique. Tout d'abord, il y a 20 ans, quand le nouveau régime est arrivé, on nous a promis, avec moult slogans, une politique modératrice en termes politiques. Et durant les 10 premières années de règne, nous avons placé ce règne sous le sceau de la démocratisation. En 2011, à la suite du mouvement du 20 février, qui est lui-même évidemment intervenu dans le cadre du mouvement du printemps arabe, nous avions promis un changement constitutionnel qui allait pouvoir aboutir à d'un état de droit où la justice serait indépendante et où les responsables du pays seraient comptables électoralement devant les citoyens. Force est de constater que cette constitution a été une sorte de pétard mouillé, un coup d'épée dans l'eau, mesure où rien rien ne s'est traduit ensuite évidemment par une amélioration de la démocratie dans le pays. Ce qui a conduit ensuite à un resserrement du pouvoir entre les mains évidemment des proches du palais ainsi que du au détriment de ceux
mais,
qui étaient
mais
choisis par le peuple.
Cette constitution de 2011, Mohamed, quand même, elle encadre bien davantage qu'auparavant les pouvoirs et la fonction royale et renforce ceux du gouvernement.
Elle s'est traduite par des avancées relativement cosmétiques, néanmoins 20 ans après son accession au pouvoir. Et il faut se rappeler ce qu'était le Maroc à la fin des années 90. Il me semble que la liberté de la presse était quand même plus assurée à la fin des années 90 au Maroc aujourd'hui. Il y avait un mouvement de démocratisation à la fin des années 90 et à la fin du règne de Hassan II, qui ensuite, évidemment, n'a pas été perpétué par Mohamed VI. Et c'est bien dommage. La presse était bien plus libre à la fin des années 90 qu'aujourd'hui.
Merci Mohamed. Vous étiez en ligne de Paris. On reste en région parisienne avec Michel. Bonjour.
Bonjour.
Vous estimez que Mohamed VI a surtout été très fort en communication?
Oui, il y a eu beaucoup plus d'effets d'annonce sur les réformes que de réformes réalisées et de réformes appliquées surtout. Mais je pense que les grands changements, ça a été pour la fortune du roi sans doute, parce qu'aujourd'hui il est quand même au 7e rang du classement des têtes couronnées dans le monde avec 2,5 milliards de fortune de dollars en dollars.
Oui, c'est ce que dit Forbes, hein.
Voilà, et qu'il vient de se faire un cadeau, et ce qui est honteux à cette époque-là, un cadeau d'un grand voilier de 88 millions de dollars, alors que les gens, il va croiser sans doute ses sujets sur les flots, ceux qui fuient le Maroc, qui est aujourd'hui quand même ce royaume au 123e rang sur 189 de l'indice de développement humain. C'est là-dessus qu'il faut voir. Je suis d'accord avec le précédent auditeur qui parle du recul sur les droits de l'homme, aussi bien individuel que collectif. Je rappelle que l'Association marocaine des droits de l'homme est interdite de location de salles depuis plus de 4 ans pour faire ses activités, qu'il y a des centaines de, dans les rapports d'Amnesty et de Human Rights Watch, on note des centaines de prisonniers politiques au Maroc, et que ce pays, quand même, a le triste privilège de coloniser le seul peuple d'Afrique qui n'a pas encore pu s'exprimer sur son devenir par l'autodétermination.
Oui, mais Michel, d'ailleurs, vous êtes vous-même militante hein, du mouvement Sahraoui, vous soutenez cette cause, et sur ce sujet-là, c'est vraiment la continuation de la politique de son père, selon vous?
Tout à fait, qui s'est même accentué, puisque on en est aujourd'hui, quand il y avait son père au pouvoir, il avait fait 16 années de guerre et il avait commencé un cessez-le-feu, et maintenant on en est à 28 années de cessez-le-feu sur un conflit armé, c'est quand même incroyable.
Pourtant, Michel, cela n'a pas empêché le Maroc de revenir au sein de l'Union africaine.
Ah bah il est bien été obligé maintenant de revenir parce qu'il était complètement discrédité de. En plus le roi il a quand même des affaires à faire en Afrique hein, parce que son holding a investi beaucoup pas pour l'intérêt des Africains mais quand même intérêt du roi hein. Et s'il est riche comme ça c'est qu'il a une holding qui travaille sur l'Afrique donc c'était aussi des intérêts dans ce domaine. Mais sur la répression au Sahara occidental elle est très importante. Il y a eu une jeune fille quand elle fêtait la victoire de l'Algérie à la Cannes. Il y a une jeune fille qui a été écrasée par une voiture de la police marocaine, une fille de 24 ans. Donc ça, on n'en a pas entendu parler, effectivement. Et puis, il y a Reporters sans frontières qui a fait un rapport d'une trentaine de pages intitulé « Sahara occidental, territoire du monde dans un trou noir de l'information ». Donc, c'est quand même un pays où on ne peut plus aller. Je vous disais que nous sommes 266 à avoir été expulsés du Sahara occidental depuis janvier 2014, de 4 continents et de 21 pays.
Oui, effectivement, donc, les associations des droits humains pointent une régression hein, en matière de droits et libertés au Maroc. Merci Michel d'avoir été avec nous. On doit maintenant donner la parole à Abdoulaye qui est en ligne de Londres. Bonjour.
Oui, bonjour monsieur.
On parlait de la politique de Mohamed VI et des relations avec ses voisins africains, du retour du Maroc au sein de l'UA. Vous trouvez que c'est une très bonne chose cette politique africaine volontariste?
Bien évidemment, je pense que c'est une très bonne chose. Mais avant de commencer, je voudrais rapidement dire bravo et pour toute votre équipe qui fait un travail fantastique en termes d'information. En ce qui concerne le Maroc et le Mohamed VI, je pense que le seul fait que sous son règne, et le Maroc soit revenu au niveau de l'Union africaine est une très bonne chose. J'avais entendu tantôt un auditeur, un intervenant parler des affaires que le roi Mohamed VI est en train de faire, des business qu'il est en train de faire en Afrique,
Elle disait que les affaires que faisaient les entreprises marocaines et les affaires personnelles du roi se confondent et se mélangent.
Oui, mais c'est pas grave, tant que cette richesse-là, elle reste en Afrique, je pense que c'est bon. Tout ce que nous sommes en train de vouloir faire, c'est que, en tant que panafricain, la richesse se crée en Afrique. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Mohamed VI a fait une offensive en termes de business, c'est de sous son règne sur beaucoup de pays africains. Je pense que c'est une très très bonne chose. Moi, je suis nigérien d'origine. Mohamed VI est venu au Niger, il est parti en Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Et je pense que c'est une très très bonne chose.
Diplomatie économique et religieuse qui le font de lui quelqu'un d'incontournable.
Absolument. Mon seul coup de gueule, c'est que c'est vraiment le problème des minorités et surtout l'accès aux opportunités, non seulement pour les minorités, mais aussi pour les étrangers hein, qui vivent au Maroc. Il y a beaucoup de Nigériens qui vont, par exemple, faire des grandes études, des études universitaires au Maroc. Quand ils finissent, moi, je voudrais bien qu'on leur donne aussi la chance d'avoir accès aux emplois. Moi, je suis venu, comme beaucoup d'Africains, en Europe, où on a étudié avec des qualifications quand même assez importantes qui nous ont permis d'accéder à des emplois décents. Donc, mon seul coup de gueule, c'est que au Maroc aussi, ces opportunités.
Il n'y a pas assez d'opportunités pour les subsahariens pour rester au Maroc. Merci à vous, Abdoulaye, qui étiez en ligne de Londres. Nous allons maintenant à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, où se trouve Godet. Bonjour.
Bonjour.
Pour vous, le roi Mohamed VI, c'est une image moderne très forte sur le continent.
Oui, mais bien entendu, il y a une image moderne. Mais tout ceci est un peu relatif. Hein. Bon, vu l'Afrique centrale aujourd'hui, bien entendu, on peut noter qu'il y a certainement des progrès économiques dans ce pays, puisque aujourd'hui, pour nous en Afrique centrale, le Maroc est devenu quasiment un CHU, un centre hospitalier universitaire où ceux qui ont les moyens viennent se soigner.
Ceux qui ont les moyens, vous l'avez bien dit.
Bien sûr, et ceux qui ont les moyens aussi envoient leurs enfants dans les universités marocaines. Donc on peut constater de loin qu'il y a des progrès économiques qui ont été réalisés. Mais progrès économique, malheureusement, n'est pas égal au développement économique et social. Et puis à tout ça, il faut quand même introduire un bémol. Il reste quand même un autocrate souverain qui est entouré d'oligarques et qui a un pouvoir à vie à la tête d'un pays sans qu'il y ait possibilité de changement à la tête du sommet de l'État. Tout ça, c'est très, très démocratique.
Il y a un terme qui a été théorisé, on appelle ça comment on appelle ça? Je l'ai noté quelque part, c'est la monarchie. Alors, je l'ai noté quelque part, mais je m'y perds complètement dans mes feuilles et je suis désolé, je vous laisse reprendre, Godet.
Oui, j'étais donc en train de dire que le fait même qu'il soit au pouvoir, pour moi, pose un problème pour nous qui nous battons pour la démocratisation en Afrique. Et mes prédécesseurs l'ont dit, vos collègues aussi ce matin l'ont dit dans le bilan qui a été fait, qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment au niveau des droits de l'homme, notamment au niveau des droits de la femme, notamment au niveau de la répartition même du fruit de cette croissance qui profite encore aujourd'hui à certains oligarques. Donc tout ça, je crois que c'est des bombes importants. Il montre qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire et que tout ce qui est donc, tout ce concert de félicitations, à mon avis, doivent être relativisés, notamment pour nous qui estimons que le véritable problème en Afrique, c'est le manque de démocratie.
Voilà, la monarchie exécutive, j'ai retrouvé le terme qui est désormais un terme consacré. On a le temps avec Abdel qui est à Paris en un mot. Abdel, vous êtes franco-marocain. Pour vous, le bilan est très mitigé pour Mohamed VI.
Oui, bonjour. Oui, en fait, on attend d'un élève qui est parfois brillant, on n'a pas envie de lui faire la remarque, hein, vous êtes brillant, vous pouvez. Mais par contre, il peut faire mieux. Le Maroc a réussi pas mal de choses, mais il a échoué quand même sur l'emploi des jeunes, l'emploi qui sont, on va dire, diplômés de l'école publique, n'arrive plus à les intégrer dans cette fonction publique qu'il aurait été